Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Ce lundi, on parle alimentation et politique avec Laura Petersel, membre du réseau Salariat et co-écrivaine de Régime Général avec Kevin Certenay. Bonne écoute.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Bonjour à toutes et tous. Le traditionnel salon de l'agriculture a ouvert ses portes samedi 26 février au parc des expositions Porte de Versailles. L'occasion, comme tous les 5 ans, pour les plus gros candidats à la présidentielle de promouvoir le volet ruralité / alimentation de leur programme. Hausse de l'abattement forfaitaire sur les terres agricoles pour Valérie Pécresse, prix plancher rémunérateur pour Jean-Luc Mélenchon, et simplification des normes pour Éric Zemmour. Alors que d'un côté 8 millions de Français dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir et que de l'autre près de 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, les débats sur les questions de l'alimentation semblent davantage faire primer la forme que le fond. Des militantes et militants, ingénieurs, sociologues s'organisent depuis quelques temps pour envisager de nouveaux modes de fonctionnement de cette filière avec un point de vue anticapitaliste, avec notamment la proposition de créer une sécurité sociale de l'alimentation. C'est le sujet central du livre dont nous allons parler aujourd'hui, paru début janvier aux éditions Riot, Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation, avec une des autrices, Laura Petersel. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre vous êtes militante et vous êtes membre du réseau, réseau Salariat, une association d'éducation populaire qui s'appuie énormément sur les travaux de l'économiste Bernard Friot. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors avant de se plonger dans le cœur du sujet, on a une petite habitude à la Radio Parleur pour démarrer nos entretiens. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un événement ou d'une expérience qui vous a façonné, qui a façonné votre engagement politique et qui vous a poussé à agir?
Oui, alors j'ai plein de choses qui me viennent en tête, plus ou moins anecdotiques, mais là ce que j'aurais envie de partager, c'est peut-être une expérience relativement récente. Je travaille dans le secteur associatif, et là la dernière asso dans laquelle j'ai travaillé, c'est une grosse association caritative, dans laquelle on a monté une section syndicale avec le syndicat dont je fais partie, donc Sud. En l'occurrence, c'est ASSO, le syndicat, puisque c'est le monde associatif. Et on a monté une nouvelle section syndicale surtout portée par des femmes jeunes. Et ça a eu un effet assez détonnant dans le paysage de cette association, et notamment par rapport aux autres syndicats qui, bien que essentiellement composés de femmes, étaient tenus et est toujours d'ailleurs tenue par des hommes. Et nous, on est toujours des femmes relativement jeunes à se retrouver déléguées syndicales, élues représentantes du personnel, et à causer d'égal à égal, en tout cas essayer de causer d'égal à égal avec le DG, le DRH, tout ça bien sûr des messieurs. Et pour moi, ça a été c'était pas forcément une expérience nouvelle, par contre ça a été extrêmement réjouissant de voir les copines, les camarades, femmes habituées à être sur des tâches d'exécutantes des métiers non cadres, enfin en bas de l'échelle quoi, se petit à petit oser prendre la parole, oser s'affirmer dans les espaces, voilà, les réunions du personnel, les espaces syndicaux, et oser porter une parole quoi, et forte du collectif en fait, et du travail collectif. Bon, voilà.
Alors, vous deviez travailler avec Kevin Certenay, qui a également co-rédigé donc avec vous l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation. Comment s'est fait votre rencontre, et surtout pourquoi est-ce qu'elle s'est orientée vers cet ouvrage?
Alors, Kevin et moi, on s'est rencontrés à Réseau Salariat. Essentiellement à Réseau Salariat, parce qu'on est tous les deux militants dans cette association. Et sur le thème précis de l'alimentation, Kevin, en l'occurrence, il est paysan. C'est un sujet qui est au cœur de son activité professionnelle et militante depuis très longtemps. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'y suis arrivée plutôt ces dernières années par des rencontres et des connaissances qui bossaient dans le milieu paysan. Et puis, clairement, la rencontre avec Kevin aussi. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet à travers des rencontres, en fait. Et cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, à l'origine, elle est portée par des gens qui sont extérieurs à Réseau Salariat, mais des gens dont je suis proche et qui ont dit s'appuyer sur les travaux de Bernard Friot, sur les travaux de Réseau Salariat. Et j'ai trouvé l'idée extrêmement enthousiasmante, Kevin aussi de son côté, et donc on a tous les deux bossé au sein de Réseau Salariat à s'approprier cette idée-là, à la déployer avec les thèses de Réseau Salariat. Et de fil en aiguille, une copine de Réseau Salariat aussi, Anaïs Angelbert, qui a une petite maison d'édition, Riot Édition, nous a proposé et même tanné pour écrire un livre sur le sujet, parce qu'au début, avec Kevin, on n'était pas chaud, on ne se sentait pas forcément légitime. Et puis, au bout d'un an d'amicale pression, on s'est jeté dans le bain en se disant ouais, que quand même, on avait envie de dire plein de trucs là-dessus et que ça valait le coup d'essayer. Voilà.
Alors justement, quand on pense à l'alimentation, on pense souvent à l'angle anticapitaliste, assez logiquement, mais on ne pense pas forcément à l'angle et aux questions féministes et décoloniales que ça pose. Pourquoi est-ce que l'alimentation, ça pose profondément des questions décoloniales et féministes ?
Ouais, merci pour cette question, parce que en effet, ça nous tient vachement à cœur. Alors la question féministe, en fait, c'est finalement assez évident, c'est qui a la charge de nourrir les autres ? Et depuis tout temps, hein, c'est qui s'occupe de préparer à manger, de faire les courses, de nourrir les autres, parce que ça, en fait, tout ça, ça relève du care, en fait, du soin aux autres. Et ça, c'est les tâches qui sont traditionnellement et toujours aujourd'hui dévolues aux femmes. Et donc, ça reste en fait dans le giron structurel des femmes, quoi. Et c'est du travail qui est complètement invisibilisé, aussi bien que voilà. Donc surtout au niveau des foyers, dans le foyer, mais même quand c'est au niveau professionnel, en fait, c'est bien souvent des tâches qui sont hyper dévalorisées. Voilà. Et du coup, et d'ailleurs, quand on regarde sur toute la filière alimentation, donc que ce soit en matière de production agricole, de transformation, de distribution de la nourriture, en fait, ou dans la restauration, en fait, il y a énormément de femmes qui bossent dans ce domaine. Et elles sont toujours sur les postes et les métiers les plus dévalorisés, les moins reconnus économiquement, socialement. On a, par exemple, c'est l'imaginaire de la caissière. Hein, enfin voilà, par exemple. Et pour le côté décolonial, ça c'est hyper intéressant aussi parce qu'en fait, la colonisation, c'est l'expansion, l'invasion par les riches des pays autour et donc la mise en esclavage, la soumission en esclavage et même l'extermination des peuples qui occupaient ces terres-là. Et en fait, l'objectif premier, c'est cultiver, c'est planter, c'est déployer en fait de l'agriculture, quoi. Et notamment dans le bouquin Régime général, on s'appuie beaucoup sur l'exemple du sucre. Et en l'occurrence, en plus, en étant français, Kevin et moi, on est tous les deux français, on a quand même aussi les Antilles. Qui est un exemple hyper fort de ce rapport à la nourriture, à l'alimentation, avec l'image du régime de bananes, notamment, enfin des bananes, quoi.
Alors, vous avez le livre est intéressant puisqu'il est ponctué de petites anecdotes, alors ce soit les vôtres, soit celles de vos amis. Il y en a une particulièrement que je trouve intéressante. Récit d'un ami, quand j'avais 11 ou 12 ans en Haute-Savoie, l'une des insultes les plus fréquentes que se lançaient les gosses était paysan. Je l'utilisais moi-même jusqu'à ce que mon père, cheminot, me demande ce qu'il y avait de si insultant dans le métier de paysan. Ce jour-là, j'ai appris que mon grand-père paternel était paysan. Pour moi, il était juste vieux et retraité. Je ne m'étais jamais posé la question de son passé et pour cause. Il avait été salarié agricole toute sa vie. Il n'avait pas d'exploitation. En fait, on a complètement perdu de vue de ce que signifiait le mot paysan. C'est quoi l'agriculture paysanne, si vous deviez donner une définition ?
Tel que nous, on le comprend, l'agriculture paysanne, c'est vraiment à l'origine une agriculture vivrière. Donc l'idée, c'est de dire en fait comment je me nourris et comment on se nourrit, puisque l'être humain, c'est un être sociable et on fonctionne en groupe, en collectif. Et d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, hein, aujourd'hui en France, on a perdu de vue ce que c'est l'agriculture paysanne, mais au niveau international, ça reste le premier métier au monde, hein, le métier de paysan et d'ailleurs le métier de paysanne, parce qu'en fait, c'est des femmes qui portent ça essentiellement. En France, alors l'agriculture paysanne, elle est quand même encore un incarné notamment par un syndicat qui s'appelle Confédération Paysanne, mais c'est vraiment l'idée d'avoir, d'être en lien et connecté quoi, à la terre, au vivant, et d'être finalement dans une pratique et une manière d'exercer son métier qui soit complètement cohérente avec le vivant, quoi. Mmh. Et donc, pour nous, ça veut dire aussi les conditions de travail, en fait. C'est comment on est aussi respectueux de nous-mêmes, quoi, et comment on travaille dans des conditions qui nous épanouissent et pas qui nous asservissent. Et au-delà de ça, ce qu'on a essayé de dire dans le bouquin, c'est qu'on pense qu'il y a une culture paysanne, que la paysannerie à travers les siècles et à travers les territoires, en fait, c'est aussi une classe sociale. D'ailleurs, Marx, il parle de la classe paysanne, hein, et c'est une transmission de savoir énorme, et en fait, ça, et c'est une tradition orale, essentiellement, et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup perdues. Alors, on, les Occidentaux, on, la France, je n'irai pas plus loin, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, mais c'est aussi comment on prend soin de cette culture-là et à ce qu'elle disparaisse pas complètement, parce que, et là encore, Kevin en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment, c'est aussi la manière de se transmettre nos savoirs et du coup de garder la main dessus, quoi. Par exemple, pour un exemple qui fait lien avec le féminisme, c'est les questions d'avortement, les questions de contraception. Pendant longtemps, c'est les femmes qui se transmettaient ce savoir-là de femme en femme avec les plantes. Et puis au fil du temps, et je vous dirai pas le quand parce que je vais dire une connerie, mais les mecs ont pris le pouvoir, ont pris le savoir et ont pris le pouvoir, et du coup c'est devenu interdit, illégal de pratiquer l'avortement ou la contraception par les plantes et par les femmes. Et du coup, c'est évidemment le contrôle des hommes sur le corps des femmes. Voilà, c'est un exemple.
Alors, l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas complètement nouveau. Ça fait quelques temps que ça circule un petit peu dans les milieux militants, notamment à Réseau Salariat. Mais donc vous proposez de sortir de l'alimentation du système capitaliste, et donc de garantir aux travailleurs et aux travailleuses de la filière alimentaire un salaire à vie. C'est une notion qui est bien connue à la gauche de la gauche. C'est donc justement le salaire à qualification personnelle qui a été théorisé par Bernard Riault. Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familier avec ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on a un salaire à vie, qu'est-ce qu'on a exactement chaque mois?
Notre proposition c'est que du coup, toute personne qui travaille dans la filière alimentation dite conventionnée, et on reviendra dessus, mais elle est un salaire à vie, et en fait, c'est vraiment l'idée qu'on ait un salaire et donc on soit reconnu comme productrice, producteur de valeur économique, en fait comme travailleur, travailleuse, quoi qu'on fasse de nos journées, quelle que soit la manière dont on occupe notre temps. Et c'est parce qu'en fait, ce qu'on cherche absolument à déconstruire, c'est cette idée totalement fausse du système capitaliste que ne serait producteur de valeur économique et donc ne travaillerait que les gens qui ont un emploi ou le marché des biens et services, que des gens qui vendent quelque chose sur le marché des biens et services. Et ça, c'est une idée qui arrange bien le système capitaliste, mais qui est parfaitement fausse. En fait, le travail, il se niche partout, puisqu'on est des êtres sociaux, et la société fonctionne grâce au travail que nous fournissons et à l'effort collectif. Et donc, ce salaire à vie, c'est une manière de déconnecter, de casser ce mythe-là, de « moi, je produis et toi, tu produis pas », et de déconnecter la question de la reconnaissance du travail, voilà, donc le salaire, de la question de ma production, de qu'est-ce que je produis ou pas. Et en matière d'alimentation, c'est particulièrement important, parce que on voit bien à quel point, par exemple, les agriculteurs, agricultrices peuvent fournir un travail monstrueux et, pour des raisons indépendantes de leur volonté, météorologiques ou autres, avoir des résultats catastrophiques en termes de production. Et donc, ça n'a rien à voir, en fait, le travail fourni et le résultat obtenu. Et accessoirement, on est aussi quand même convaincu que le salaire à vie, c'est une voie d'émancipation forte pour nous toutes et tous, et notamment les femmes, parce que l'indépendance économique, c'est indispensable. Et comme on se le disait tout à l'heure, les femmes, c'est celles qui sont les moins bien payées, les plus exploitées dans la filière alimentation capitaliste. Et donc, avoir un salaire à vie, c'est une manière d'assurer une moins d'inégalité, pour ne pas dire une meilleure égalité.
Alors c'est compliqué de simplifier comme ça en un mot le système que vous proposez de sécurité sociale de l'alimentation, mais s'il fallait résumer grossièrement, donc il s'agirait de donner une sorte de statut qui serait similaire à celui de statut de fonctionnaire aux travailleurs et aux travailleuses de la filière alimentaire, comme pour les infirmiers et les profs. Donc on les rémunère en dehors d'une logique de marché, en fait, c'est ça.
Exactement, c'est exactement ça. Ouais.
Et donc, comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce que on vient prélever sur les salaires une petite somme chaque mois, et donc on met ça dans des caisses au niveau local, c'est bien ça?
Alors c'est pas ça, parce que et merci de poser cette question, et ça me permet quand même de compléter. On insiste aussi beaucoup sur le fait que cette idée de salaire à vie, en fait, c'est un aspect d'une proposition plus globale. Le salaire à vie n'a de pertinence que si on la colle à d'autres levier pour sortir du système capitaliste. Et donc notamment, donc là vous parliez de cette idée de cotisation sociale. La cotisation sociale, ça c'est merci le régime général de sécurité sociale de 45-46. C'est vraiment cette idée de dire, en fait, on prend les richesses produites, les richesses créées, en fait, elles se divisent entre le travail et le capital. Et ce qui part au travail, c'est ce qui va dans le salaire, en fait. Et ce qui part au capital, c'est ce qui fait le profit, c'est ce qui fait les dividendes des actionnaires. Et la cotisation sociale, en fait, elle permet de prendre sur ce qui part au capital pour le mettre du côté du travail. Puisque les budgets qui sont donnés aux caisses de sécurité sociale, c'est ce qui vont permettre de reconnaître du travail hors de l'emploi avec le salaire des soignants, les pensions de retraite, les allocations chômage. Nous là du coup, si on revient sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation, on propose de créer une cotisation sociale dédiée à l'alimentation qui va permettre de déployer cette filière là et notamment avec le salaire à vie des travailleuses et travailleurs. Mais c'est hyper important d'avoir en tête que cette cotisation sociale, elle n'est pas prélevée sur nos salaires, elle est prélevée sur le capital. Et ça, dans la construction historique de la sécurité sociale, on a tendance à vachement se faire avoir avec cette histoire de cotisation sociale parce que elle est calculée sur le salaire, la cotisation sociale. Du coup, ça nous donne l'impression que c'est un acte individuel, que c'est moi, Laura, qui suis salariée, qui cotise, et donc quelque part, qui serait dans ma grande générosité, j'abonderais les caisses de sécurité. Or, ça n'a aucun sens de l'individualiser comme ça. En fait, ça marche parce que c'est collectif, et parce que c'est pris sur l'ensemble des richesses produites, et que ça sert l'ensemble des travailleurs et travailleuses. C'est vraiment juste le calcul qui est individualisé, quoi.
Mais comment vous expliquez justement qu'on a fini par avoir ce calcul très individuel de se dire c'est mon salaire qu'on impute, c'est mon salaire à qui on enlève chaque mois un petit peu de sous? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette logique très individuelle?
Ça s'appelle le système capitaliste. Non. Non, en fait, pour faire une réponse un peu plus complète, c'est le régime général de sécurité sociale et cette philosophie-là que nous, on raconte de la manière dont on la rencontre, en fait, elle ne s'est pas faite de manière linéaire. C'est une construction d'un rapport de force avec des allers-retours, avec des va-et-vient. En 46, sortie de la Seconde Guerre mondiale, le patronat est quand même dans ses petits souliers parce qu'ils ont plutôt été du côté collabo et les communistes sont plutôt en force parce qu'ils ont été du côté résistant. Je la fais très caricaturale, mais on est quand même dans cette réalité-là. Et du coup, ça permet que des mecs comme Ambroise Croizat mettent en place un régime général de sécurité sociale avec la volonté de socialiser les richesses produites et que ça aille dans les poches des travailleurs et travailleuses. Et sauf que depuis, en fait, le patronat aidé par l'État bourgeois n'a eu de cesse d'attaquer ce système-là, en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a même des syndicats dits de salariés qui revendiquent une retraite à points, qui revendiquent une logique du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Ce qui est complètement capitaliste, en fait, comme manière de voir les choses. Et nous, on est archi contre ça. D'autres syndicats, les syndicats de lutte, sont contre ça aussi. Mais c'est sûr que cette manière d'avoir les fiches de paye qui nous font apparaître le découpage individuel nous rend très difficile la pensée collective, en fait. Et après, pour des manières beaucoup plus prosaïques, en fait, le fait d'asseoir le calcul des cotisations sociales sur les salaires, c'était une manière d'éviter les fraudes, en fait, d'éviter les détournements. Parce que pour le coup, les patrons, ils peuvent mentir sur leurs profits. C'est beaucoup plus dur de mentir sur le nombre de salariés qu'il y a dans la boîte. Ou plutôt, c'était plus facile pour l'État de contrôler la réalité. Et donc, d'avoir des cotisations sociales assises sur les salaires plutôt que sur la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est plus facile à contrôler. C'est une des explications.
Forcément, quand on lit votre livre et quand on pense à tout ce qui existe déjà, on pense forcément aux AMAP, par exemple. Vous en parlez régulièrement dans le livre. Quand vous voyez justement à des échelles très locales se développer ce type de réseau, ce type de coopération, est-ce que c'est une source d'espoir ou est-ce que justement il n'y a pas quelque chose à nuancer? Est-ce que c'est que du positif, les AMAP?
Ah non, c'est pas que du positif, loin de là. En fait, la philosophie d'origine des AMAP, elle est extrêmement intéressante parce que les lettres hein, sont importantes. On parle toujours en sigles, mais c'est important de se rappeler ce qu'il y a derrière les sigles. AMAP, c'est Association pour la mutualisation d'une agriculture paysanne, je crois, si je dis pas de conneries. Et c'était vraiment l'idée de dire, c'est des individus qui se mettent ensemble et qui se cotisent pour assurer un salaire à des paysans paysannes, quel que soit le résultat des récoltes. Donc, on est vraiment sur cette logique de salaire déconnecté de la production. Et ça, c'est la philosophie d'origine des AMAP. Et ça, c'est super intéressant. Parce que c'est la reconnaissance que le travail paysan, c'est un travail bon, difficile et surtout ingrat par rapport entre le travail fourni et les résultats obtenus. Et du coup, là, on sent qu'il y a un prémisse de socialisation, en fait, et un prémisse de logique collective communiste. Ça, c'est à l'origine. Aujourd'hui, dans beaucoup d'AMAP, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est un réseau de consommateurs, consommatrices, qui souhaitons avoir accès à des produits locaux, de qualité, si possible bio, tant qu'à faire. Et en fait, si le panier il est pas rempli, on n'est pas du tout satisfait et on se casse. Donc, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout dans la même logique. Alors, là, évidemment, ce que je dis est caricatural. Il y a aussi des AMAP qui continuent de garder cette philosophie d'origine. Et ça, c'est super intéressant. Et par rapport à la question de quel regard porter là-dessus, c'est comment aussi on se leurre pas sur toutes ces initiatives locales qui sont pleines d'espoir. Hein. Je pense que c'est aussi hyper important d'activer ça. Mais qui elles concernent, qui elles touchent.
Et vous parlez justement, il y a un témoignage dans le livre où vous dites, voilà, il y a un enjeu de réappropriation du mot travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit devenir parfois, même à gauche, l'idée d'une société sans travail et qui est assez enthousiasmante, parfois qui crée beaucoup de débats et qui a l'air d'enjouer beaucoup de monde. Mais vous préconisez en fait un peu de renverser les raisonnements, de reprendre conscience que nous sommes des êtres qui produisons en permanence.
Complètement. Ça, c'est... alors là, pour le coup, moi, c'est vraiment une chose que j'ai... apprise, je pense que je peux le dire comme ça, Réseau Salariat. J'ai rejoint cette association Réseau Salariat avec voilà le fantasme ou le rêve du salaire à vie qui me faisait super envie et je me disais, oh, c'est génial d'être payé pour faire ce que je veux de mes journées. Et donc, autrement dit, pour ne pas travailler. Et grâce au travail qui est fait dans cet asso et en parallèle aussi grâce à mon parcours féministe, j'ai mesuré à quel point c'était une erreur en fait de ne pas revendiquer le travail. Alors, c'est compliqué hein, parce que faudrait... évidemment, prendre le temps de définir les mots et qu'est-ce que le travail. En tout cas, ce qui est très important, c'est que le travail n'est pas synonyme d'emploi. Le travail, il n'est pas synonyme de production de valeur pour enrichir le capital. Et à partir du moment où on est OK avec ça, alors on a tout intérêt, selon nous, à revendiquer que nous sommes des travailleurs et des travailleuses. Et moi, je vais plus loin que ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment mon propos, enfin, notre propos avec Kevin, mais c'est pas celui de Réseau Salariat forcément. C'est de dire, en fait, le travail, il est partout. Et à chaque fois qu'on va chercher à dire ça, c'est du travail ou ça, c'est pas du travail, en fait, on va continuer à invisibiliser tout un tas de tâches qui sont évidemment donc dévolues aux plus dominés. Par exemple, c'est évidemment le travail domestique, c'est le travail de la conversation, c'est le travail affectif, autant de choses qui relèvent très souvent des femmes et qui ne sont pas reconnues comme du travail. Et pourtant, si ce n'est pas là, ça ne marche pas. La société ne tourne pas. Et donc, c'est pour ça que finalement, cette notion de travail, elle est vraiment, selon nous, à valoriser et à s'approprier surtout. C'est nous qui décidons où est le travail. Et le nous, c'est-à-dire le peuple, les travailleurs, les travailleuses. Et ce n'est pas d'autres qui vont décider pour nous. Là où on travaille et là où on ne travaille pas.
Et c'est intéressant justement cette notion de nous, puisque pareil, la notion d'autogestion est aussi, c'est un pilier important de votre projet. Pourquoi est-ce que par exemple l'État n'est pas forcément le meilleur acteur pour gérer des terres de façon neutre et pour les neutraliser, je dirais, de toute notion capitaliste? Pourquoi est-ce que l'État, a priori, qui pourtant sert l'intérêt général, n'est pas forcément l'acteur clé?
Alors, il y a, bon, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, l'État qui sert l'intérêt général en régime d'État bourgeois, je crois que c'est assez évident que ça n'est pas le cas. Et dans les exemples hein, de régimes socialistes qu'on connaît, plus ou moins bien d'ailleurs, hein, j'ai aucune prétention en ce domaine, mais on voit bien que l'État qui sert l'intérêt général, c'est fortement discutable parce que c'est quoi l'intérêt général Et pour moi, l'intérêt général, ce n'est que l'intérêt de celles et ceux qui s'expriment pour le définir. Donc, il faut bien que ce soit généralisé, qu'on puisse l'exprimer et que la décision, elle appartienne directement à celles et ceux qui agissent. Et donc, la logique d'autogestion, elle permet ça, en fait. C'est de dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends, c'est de dire, par exemple, sur un collectif de travail, c'est bien celles et ceux qui ont en main l'outil de travail qui vont décider de comment ils s'organisent. Pour produire. Il y a quand même des expériences historiques qui sont hyper intéressantes dans ce domaine, que ce soit la Commune de Paris, la CNT en Espagne. Enfin, il y a quand même des déjà là qui sont hyper intéressants et qui nous montrent que des perspectives autogestionnaires, elles existent et elles sont là, quoi.
Quand on parle d'agriculture intensive, souvent l'argument qui revient souvent, et même parfois de la part de la gauche, c'est de dire bah voilà, il faut produire massivement puisqu'on est nombreux à consommer massivement. Et c'est contre-intuitif parce que peu de gens aujourd'hui savent qu'on pourrait tout à fait aujourd'hui subvenir à nos besoins avec de l'agriculture paysanne. Donc pourquoi est-ce que tout ce raisonnement s'est installé et comment est-ce qu'on peut essayer de le déconstruire justement ?
Alors là, c'est super intéressant. Le sujet, j'y connaissais rien, donc j'avais ces a priori là, enfin ces idées là dans la tête. Et dès que je me suis intéressée d'un peu plus près au sujet, en fait, les chiffres, les constats, les faits sont là. En fait, aujourd'hui, on produit de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains. Et pourtant, il y a, je sais plus exactement, je crois à peu près 1 milliard d'êtres humains qui sont en situation de famine ou de malnutrition très importante. Donc en fait, on voit bien que la question n'est absolument pas la quantité de nourriture produite, ou si c'est une question, c'est plutôt qu'il y en a trop qui est produite, et que c'est avec toutes les conséquences qu'on sait, notamment sur la planète, sur l'état de la planète. La question, elle est vraiment, c'est qui produit quoi, et à destination de qui, et dans quelles conditions, et c'est vraiment ce qu'on déploie tout au long du livre. Cette question de pourquoi l'agriculture paysanne est mise de côté au profit d'une agriculture intensive, c'est parce que ça sert le système capitaliste. Bon, et accessoirement aussi colonial. Mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est une logique capitaliste de produire encore et toujours plus pour vendre encore et toujours plus et faire plus de profit. Et quand même, c'est important aussi de le redire, aujourd'hui, l'agriculture paysanne, c'est ce qui nourrit 70% des êtres humains sur cette planète. Enfin, malheureusement, le monde est dominé économiquement et donc politiquement par les multinationales qui, et donc notamment dans notre sujet, qui organisent la transformation et la distribution de nourriture dégueulasse, ultra transformée et qui nous empoisonne. Mais n'empêche que 70% des êtres humains de cette planète continuent à se nourrir par l'agriculture paysanne. Donc c'est la construction du récit capitaliste. En fait, c'est un récit. Enfin, c'est voilà.
Mais alors justement, est-ce que c'est pas aussi un marqueur d'espoir de se dire que si 70% fonctionne en agriculture paysanne, ça veut dire que potentiellement ce genre de système de sécurité sociale pourrait être un système qui serait mis à l'échelle mondiale, ou en tout cas qui serait mis à l'échelle de plusieurs pays. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, ou est-ce que c'est une perspective que vous envisagez
Complètement. Complètement. Alors, on est là-dessus, pour nous, c'est extrêmement important de pas oublier ça, de pas s'enfermer dans les frontières nationales, parce que la lutte, elle est internationaliste ou elle l'est pas. Enfin, c'est vrai depuis longtemps, et aujourd'hui, ça l'est peut-être encore plus que jamais. Et sur le sujet de l'alimentation précisément, ça, on voit bien ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est le résultat de la globalisation. Et donc, en fait, transformer radicalement la filière, c'est ne peut pas se faire à une échelle. Enfin, en tout cas, on en est convaincu, ne peut pas se faire que à une échelle nationale ou locale. Ça veut dire en fait asseoir un rapport de force qui se joue auprès de multiples acteurs qui vont être à travers le monde, en fait. Après, de là à dire, on sait exactement comment faut faire. Non, ouais. On n'a pas cette prétention. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Là encore, hier, Mediapart a sorti tout un dossier sur l'industrie du poulet et qui montre très bien comment c'est un acteur néerlandais qui s'implante en France pour aller vendre, je ne sais plus dans quel pays. Enfin, en fait, voilà.
Donc le système capitaliste a aucun mal, lui, à franchir les frontières. Donc a priori, il n'y aurait aucun mal à ce qu'un système comme le vôtre que vous proposez puisse aussi franchir d'autres frontières.
Exactement.
Mais en quoi est-ce que dans un système non capitaliste, avec cette sécurité sociale de l'alimentation, on pourra sortir de cette logique de malbouffe ?
En fait, la question c'est quoi la malbouffe ? Donc la malbouffe, c'est a priori de la nourriture qui nous fait du mal au niveau de la santé, quoi. de la santé humaine. Si on est dans une logique de sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'on prône, nous, c'est que du coup, les décisions sur qu'est-ce qui va être produit, dans quelles conditions, elles se prennent à l'échelle des caisses, elles se prennent dans les collectifs de travail autogérés, et donc avec l'objectif de servir l'intérêt général. Et qui a intérêt à produire de la nourriture qui nous fait du mal ? A priori, si c'est pas pour des raisons de cupidité, si c'est pas pour des raisons de profit, alors ce serait avec quelle raison, quoi ? Donc il y a donc voilà, c'est je sais pas si ça répond à la question.
Oui, je vois. Je voulais revenir sur moi parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle justement des caisses de sécurité sociale au niveau local. Vous abordez un thème un peu assez crucial quand même quand on est exploitant agricole, c'est l'investissement. Et vous le dites dans les milieux anticapitalistes, quand on parle de ce mot-là, c'est un peu un mot sale qu'on n'ose pas trop employer. C'est un peu comme entreprendre, ça fait partie du langage un peu libéral. Mais pourtant, quand on démarre, on a besoin d'investir pour produire. Comment est-ce que vous proposez que les agriculteurs puissent investir grâce à ces caisses-là ? Comment est-ce qu'elles fonctionneraient ? Et quel système démocratique vous envisagez avec ces caisses locales ?
Alors du coup, c'est pas vrai que pour les agriculteurs, hein, c'est vrai pour l'ensemble de la filière. Mmh. Et notre idée, c'est que du coup, la cotisation sociale fléchée sécurité sociale de l'alimentation, elle permet d'abonder des fonds aux différentes caisses de sécurité sociale de l'alimentation, et que ce soit ces caisses qui est du coup une ligne budgétaire dédiée à l'investissement pour permettre sur leur territoire de déployer des collectifs de travail qui respecteraient les critères posés par les caisses, par le régime. Et du coup, ça veut dire que ce seraient des collectifs de travail qui candidateraient, en fait, qui feraient des demandes de subventions. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe aujourd'hui. On prend souvent l'exemple agricole et c'est chiant parce que c'est pas le seul. Mais on peut prendre un autre exemple. Quand un magasin ou un restaurant veut ouvrir ou une usine de transformation, en fait, ils vont voir des banques et ils font des prêts. Donc en fait, ils construisent un dossier, ils présentent un dossier. Alors en l'occurrence, c'est pour s'endetter. Là, nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit dans un cadre de subvention où du coup, ce soit la collectivité qui supporte le risque. Et pas le collectif de travail tout seul. Mais ce serait la même logique, en fait. Ce serait de candidater pour pouvoir s'installer ou pour pouvoir faire évoluer son collectif de manière à répondre aux critères.
Mais qui on retrouvera justement dans ces cas ? C'est intéressant. Parce
qui va prendre la décision ?
Oui, qui sera dans la décision, ouais.
Alors, ce qu'on propose, nous, c'est que ce soit du coup des collectifs d'habitantes et d'habitants. En fait, que ce soit du coup un maximum de participation directe, qu'il y ait un maximum de transparence sur l'accès à l'information, la manière de prendre les décisions, et que quand même, on se dit bien qu'à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il y ait certaines personnes ayant mandat de prendre la décision. Et donc, on propose que ces personnes elles soient tirées au sort, et que ce soit à 2/3 des habitants, et pour 1/3 des professionnels conventionnés. Et on insiste là-dessus sur la question de la formation des personnes qui vont siéger dans ces caisses et prendre les décisions, et aussi qu'elles soient rémunérées. Alors bon, du coup, les professionnels, ils auront leur salaire à vie, mais pour les personnes tirées au sort, qu'elles soient rémunérées ou indemnisées de manière à s'assurer que tout le monde puisse se libérer le temps disponible à rendre des décisions de manière éclairée, informée.
Alors, parce que justement, on a presque l'impression aujourd'hui, on nous dit qu'avec le choix qu'on a sur les étals des supermarchés, on a le contrôle un peu sur ce qu'on mange. Et c'est un peu la morale presque de tout ce livre. On nous dit que si on consomme trop gras, trop sucré, trop salé, finalement, c'est un peu de notre faute. On l'aura un petit peu cherché. L'alimentation, c'est quelque chose de profondément politique. C'est pas juste un choix. Les gens ne font pas le choix de manger trop, trop sucré, trop salé.
Ça, c'est vraiment un des trucs qui nous rend dingue.
C'est en effet que les...
Non, mais l'idée que ce seraient nos actes de consommation qui seraient des actes politiques. Alors déjà, c'est complètement illusoire de croire qu'on a le choix, parce qu'en fait, on voit bien que derrière les centaines, milliers de marques qu'on trouve dans les supermarchés, en fait, c'est toujours les mêmes gros qui se cachent derrière, d'une part. D'autre part, ça enlève pas du tout les modes de production, les modes de transformation. Ça, c'est complètement dicté par des logiques économiques et le système capitaliste. Donc, en fait, que ce soit tel poulet ou tel jambon qu'on achète, ça change pas. Et en plus, il y a vraiment un mépris de classe de dingue avec ce type d'argument. Parce qu'en fait, c'est pas du tout vrai qu'on achète ce qu'on veut. C'est vrai pour personne, mais ça l'est d'autant moins qu'on n'a pas beaucoup de thunes. Et ça, vraiment, c'est insupportable sur ce sujet précisément, le mépris de classe qu'il peut y avoir on n'a qu'à monter des ateliers cuisine, comme ça on apprendra aux gens à cuisiner des légumes et des fruits, parce que ça coûte moins cher d'acheter des fruits et des légumes. Et c'est vraiment, ça fait preuve d'une méconnaissance crasse de c'est quoi vivre avec des conditions de vie dégradées, avec peu de budget et surtout avec peu de temps disponible. Et il y a aussi ce rapport au temps. En fait, un des leviers du système capitaliste, c'est de nous broyer et de nous voler notre temps. Et en fait, plus on est exploité et moins on a de temps disponible. Donc c'est voilà, et c'est faire fi de tout ça en fait que de croire que tout se joue au niveau de la consommation. Quoi.
Et effectivement, vous l'avez souligné, on a tendance à oublier qu'entre les céréales que récolte l'agriculteur et le consommateur qui va manger à la fin, en bout de course, il y a des étapes de transformation, de distribution, et c'est même à cet endroit précis, et vous le dites, qu'il y a tous les enjeux de pouvoir qui sont présents. Maintenant, quand on a cette base et quand on a lu ce livre, qui est d'ailleurs très accessible et qui est très facile à lire, comment est-ce qu'on peut créer un rapport de force avec des multinationales que vous avez citées, qui ne sont pas si nombreuses que ça, Nestlé, Unilever, Coca-Cola? Comment est-ce qu'on fait pour créer un rapport de force durable avec ces gens-là?
Alors, la question est facile à poser, la réponse est peut-être moins évidente à trouver. Je crois qu'on est nombreuses et nombreux à la chercher encore. Non, mais en tout cas, au-delà de ça, alors alors notre livre, il est très ambitieux et à la fois, on a vraiment le souci de dire qu'on n'a pas du tout réponse à tout. C'est des propositions et on ne demande que ça, que de les discuter, de les pinailler, de les enrichir. Mais du coup, nous, les leviers qu'on avance dans cet ouvrage, hein, c'est vraiment la piste syndicale. Et quand je dis ça, c'est pas au sens de l'étiquette syndicale, mais bien au sens de la lutte collective des travailleurs et travailleuses organisées dans l'intérêt... De notre classe quoi. Et ça, les luttes syndicales au sens large du terme dans la filière alimentation, en fait c'est toutes les semaines qu'il y en a et que les médias bien choisis relaient. et ça par exemple, c'est comment on les soutient. On parle aussi dans le livre du pouvoir en fait qu'on peut avoir les communes, les collectivités territoriales. Allons-y, mettons la pression à nos collectivités pour que elles installent des maraîchers, des éleveurs, pour que elles organisent des espaces de restauration collective gratuits, pour que, enfin, en fait, on a quand même pas mal de leviers à notre portée. Et pour atteindre ces multinationales, en fait, la question, elle se pose. Là, comme elle se pose dans plein d'autres domaines, quoi. C'est vraiment la question de la construction du rapport de force et de comment on sort du système capitaliste, mais du coup, en termes de masse, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et donc, c'est comment on construit ce rapport de force, quoi.
Et vous avez justement, est-ce que vous commencez à avoir des retours, que ce soit chez les personnes qui travaillent dans les milieux, dans la filière alimentation ou dans les syndicats, est-ce que vous commencez à avoir des retours sur ce système-là, sur votre livre déjà plus très précisément, mais plus globalement sur cette proposition de système de sécurité sociale de l'alimentation? Est-ce que vous avez déjà des échos positifs de gens qui travaillent dans le concret là-dedans?
C'est une très bonne question et ça fait partie de nos difficultés. Et en fait, il y a assez peu de personnes syndiquées dans la filière. Bon, ouais. Après, comme partout, dans tous les secteurs du travail. Mais et en plus... autant dans le milieu paysan, ça, on a plein d'entrées, autant dans d'autres secteurs, c'est plus compliqué. On y travaille, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras, et on invite vraiment d'ailleurs toutes les personnes intéressées par le sujet à faire ce lien-là et ces ponts-là. Donc ce serait tout à fait prétentieux de ma part de dire qu'on a un succès fou dans ce domaine, mais pour les personnes avec qui on arrive à échanger et dans nos cercles proches, amicaux, il y a des personnes qui bossent en grande distribution, qui bossent en abattoir, les personnes sont hyper enthousiastes à l'idée de ce qu'on raconte. Et après, ça c'est un truc, donc je peux en parler parce que Kevin n'est pas là, donc Kevin il vit dans le bocage, dans le nord des Deux-Sèvres. Et avec le groupe local de réseau salariat là-bas, il travaille avec une sociologue du travail en ce moment, à enquêter justement auprès des travailleurs et travailleuses de la filière alimentation, mais du coup du coin. Donc ils ont rencontré, je crois, 5-6 personnes, il y en a encore 10 autres qui vont venir, où du coup, avec l'aide de cette sociologue, ils font des enquêtes donc sociologiques pour justement aller au plus près des réelles conditions de travail et interroger ces personnes sur qu'est-ce qu'elles aimeraient voir changer, quoi. Et dans les premiers retours, là, ce qui ressort très, très fort, c'est qu'en fait, ces personnes, elles aiment leur boulot. Par contre, c'est les conditions de travail qui leur vont pas du tout. Et ce qu'elles expriment, c'est que ce qu'elles voudraient, c'est plus de collègues, c'est plus de monde pour faire le taf avec elles. Mmh. C'est Lordon qui parle de ça assez joliment d'ailleurs, de ce truc de, en tant qu'être humain, on a vraiment le souci de faire, de faire du bon travail. Mmh. Et que pour faire du bon travail, et ben en fait, on a besoin d'être nombreux et d'avoir le temps. Et c'est évidemment le système capitaliste, ça, il nous prive de tout ça.
Et justement, ce système-là de sécurité sociale de l'alimentation pourrait permettre de vraiment donner envie aussi à plein de gens qui ne pensent pas forcément à se tourner vers l'agriculture, d'y aller, puisqu'il y a un réel manque aujourd'hui d'agriculteurs. On commence à le voir et on va le voir dans les années à venir. Donc, vous pensez, vous, que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aussi attirer énormément de gens vers cette filière ?
Ah bah, nous, on est complètement convaincus de ça. Mais pour le coup, on est d'autant plus convaincus qu'en fait, il y a plein de gens qui aimeraient faire ce métier-là. Et il y a plein de gens. Alors, il y a d'énormes problèmes d'accès aux fonciers, à des terres, à des fermes. Mais il y a aussi le fait que les conditions de travail sont tellement dures qu'il y a aussi beaucoup de gens qui laissent tomber, qui baissent les bras. Et c'est, pour le coup, c'est ce qu'on tente de dire aussi dans notre ouvrage, c'est qu'on pense qu'un projet comme celui d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est aussi une manière de rendre désirables ces métiers-là, c'est aussi une manière de repeupler les territoires qui aujourd'hui se désertent pour qu'on s'agglutine tous dans les métropoles. Enfin, c'est aussi une manière de repenser complètement le territoire, notre rapport au vivre ensemble, quoi.
Et est-ce que ça veut dire aussi admettre d'une certaine façon qu'on ne peut pas non plus constamment avoir tout ce qu'on veut en termes de... J'ai l'impression de poser une question qui est très qui est très formatée, mince, on va plus avoir ce qu'on veut dans les étals des supermarchés, mais mine de rien ça nécessite aussi de repenser ce qu'on mange et de reprendre conscience que on se contente pas simplement d'avaler comme ça ce qu'on a sous la main et que ce sont des vraies choses qui font parfois des milliers de kilomètres en avion.
Mais cette question là elle est hyper intéressante, c'est la manière dont vous la posez, c'est on va prendre conscience que on peut pas manger tout ce qu'on veut. Enfin, c'est qui le on? Est-ce que c'est un individu ou est-ce que c'est un collectif? Et du coup, qu'est-ce qu'on veut manger? En fait, comme on se l'est dit tout à l'heure, en vrai, nos choix, ils sont complètement conditionnés par le marketing, ouais. Par nos codes culturels, par notre aliénation au système capitaliste. Enfin, du coup, ce choix-là et ces désirs-là, en fait, moi, j'en suis convaincue, ils vont évoluer. Si on arrive à créer un rapport de force suffisant pour mettre en place une filière pareille, ça veut dire qu'il y aura des choses qui auront bougé entre-temps. Et du coup, ça veut dire aussi que nos désirs, ils vont bouger, quoi. Et encore une fois, si le « on », c'est bien un « nous » collectif, alors de toute façon, ça va être le résultat de discussions, de compromis, de rapports. Ah oui, ça, c'est un point hyper important. Les rapports de force, ils vont pas disparaître avec ce qu'on propose. La conflictualité va pas disparaître. Par contre, elle va se jouer dans des espaces qu'on estime démocratiques parce que équitable, égalitaire et transparent. Et que du coup, les règles du jeu, elles seront accessibles à toutes et tous, quoi.
Oui, la conflictualité n'est pas par essence quelque chose de mal, entre guillemets. C'est quelque chose qui permet justement de faire advenir, entre guillemets, soit des compromis, des discussions, de véritables processus démocratiques.
C'est ni bien ni mal, et plus, c'est complètement intrinsèque à l'être humain. À partir du moment où on vit à plusieurs, il y a forcément conflit.
Mais effectivement, quand on lit le livre, en fait, on voit qu'il soulève énormément de questions, et où il n'y a pas forcément de réponse, mais ça invite énormément à réfléchir aussi sur ce qu'on a, nous, envie de ce futur désirable qu'on a envie de construire. Parce que vers la fin du livre, vous citez comme ça pêle-mêle plein de questions qui restent ouvertes, notamment sur le salaire à vie. Est-ce qu'on aura plusieurs échelons de salaire? Est-ce que ce sera un salaire unique? Comment est-ce qu'on récupère massivement les terres agricoles? Est-ce que les caisses locales auront un droit de regard sur l'organisation du travail? Si des gens qui nous écoutent se posent un peu toutes ces questions, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver éventuellement des réponses? S'ils ont envie de s'impliquer dans une association, dans un truc, dans un syndicat, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Vers qui ils peuvent se tourner? Moment auto-promo peut-être.
J'ai beaucoup de blagues qui me sont venues en tête pour répondre à cette question. Je vais essayer d'y répondre sérieusement. ils font comme nous, ils cherchent. Et tant qu'à faire, on cherche à plusieurs, on cherche ensemble et on tâtonne et on va certainement aussi échouer. Et l'échec, c'est un enseignement. Comme Kevin n'est pas là, du coup, je vais en parler à sa place. Mais Kevin, il est aujourd'hui très fortement investi dans une association qui s'appelle le Plat de Résistance, qui est une cantine à la ferme. Une cantine de lutte, un espace du coup à la fois bénévole et aussi salarié, qui travaille avec les producteurs et productrices du coin, qui fonctionne sur une base de prix libre, où ils sont là notamment en ce moment très pris dans des questions de propriété. Comment changer, transférer la propriété qui est aujourd'hui une propriété privée, pour aller vers une propriété collective. Donc, ils sont rapprochés de Antidote, qui est un fonds de dotation, une foncière, qui réfléchit à toutes ces questions-là et tout ça. Voilà, en fait, ça, c'est une manière de, clairement, là, c'est un collectif qui est au travail, qui réfléchit, et en même temps, avec quelque chose de très concret entre les mains, hein, qui est leur objet associatif. Ils tâtonnent, ils tentent des trucs, des fois ils reviennent en arrière, des fois ils font 3 pas en avant. Et puis en avant, ça veut dire quoi, en fait? Et bon, voilà, je donne cet exemple parce que c'est celui de Kevin, et voilà, et comme il est pas là, je trouve important d'en parler, mais je pense que, et pour la question de où trouver les réponses, On a longtemps eu cette discussion, puis on l'a régulièrement avec les personnes avec qui on échange autour du livre. Notre livre, c'est un livre, donc déjà en soi, il n'est pas accessible à tout le monde. En plus, on a énormément sourcé, notamment la partie constat, parce qu'en fait, on a essayé d'en dire un maximum, on en a aussi peu de pages que possible. Du coup, pour en savoir plus, il faut aller creuser. Et en fait, il y a énormément de littérature sur la partie constat. Sur la partie proposition, il existe aussi plein de choses. Mais on est assez convaincu que, lire les livres, en fait, on va lire les livres que à partir du moment où il y a quelque chose déjà qui nous a animé, qui nous a mis en mouvement. Il faut d'abord que ça passe par les tripes, quoi, avant que ça passe par le cerveau. Remplir notre cerveau, c'est une manière de nous aider à conscientiser ce qui se passe dans nos tripes, quoi, en gros. Mais c'est pas l'inverse. Et je pense que j'ai l'intuition qu'on peut parfois se leurrer en imaginant que parce qu'on aura lu une bibliothèque entière d'éminents ouvrages qui nous diront comment faire la révolution, alors on va savoir le faire. Moi, je crois pas que ça marche comme ça.
Laura Petersa, la tradition à Radio Parleur, c'est de terminer nos entretiens en musique. Est-ce qu'il y en a une qui résonne particulièrement en vous après cet échange ou avec les combats que vous menez en ce moment?
Oui, alors... En fait, c'est une chanson qu'on a choisie avec Kevin et c'est une chanson d'un camarade de réseau salariat qui s'appelle Maxime Goubin et sa chanson, elle s'appelle « Salaire à vie ». Et on la trouve très chouette. Voilà.
Mais merci beaucoup, Laura Petersel, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous avez donc votre livre écrit avec Kevin Certenay, « Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation » qui est disponible chez Riot Éditions. Et dans quelques bonnes librairies, notamment à Paris. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ça n'est pas un métier peinard de faire travailler les gens. J'ai même lu dans un canard que c'est l'un des plus fatigants. Si c'est vrai, soyons grands seigneurs, on n'a qu'à les débarrasser. Plus besoin d'avoir d'employeur quand on est tous des salariés. Salaire à vie. Faut relancer l'emploi, disent-ils à la télévision. Même sur les tracts des syndicats, c'en est une vraie religion. Moi, ce que j'aime, c'est le jardinage, et pour ce qui est de jardiner, depuis que je suis au chômage, j'ai jamais autant travaillé. Salaire à vie. Salaire à vie pour l'immigré qu'a fait l'effort de venir ici. Si le droit du sol est institué, plus besoin de toute cette paperasserie. Et pour les travailleuses du sexe, puisqu'on nous dit que c'est leur choix, on verra combien il en reste avec 1500 balles par mois. Salaire à vie.
Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous venez d'écouter un podcast tiré de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Aujourd'hui, Laura Petersel était l'invitée de l'émission pour parler politique et alimentation. Vous pouvez dès maintenant retrouver le podcast sur le site jetfm.fr ainsi que sur celui de Radio Parleur et diverses plateformes d'écoute. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet!